I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. À l'heure du confinement, Histoire de Daron continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis très heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des interviews dans cette période. Cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Jérémy, qui m'a écrit quelques jours avant notre enregistrement pour me confier qu'il venait de découvrir le podcast à l'occasion de la naissance de sa fille, venue au monde 10 jours avant la sortie de cet épisode. Comment se sont passées la fin de la grossesse et l'accouchement en plein confinement? Ça donne quoi d'accueillir chez soi un bébé confiné? Enfin, question pas joyeuse mais réelle, qu'est-ce que ça fait d'accueillir un enfant en plein contexte de maladie, de pandémie et de dizaines de milliers de morts? Autant de questions auxquelles Jérémy prend le temps de répondre. Merci beaucoup à lui pour sa disponibilité. De petits ajouts ou erratum par rapport à cet épisode, Jérémy m'a envoyé un message après l'interview pour me dire qu'avec l'émotion, il avait oublié de remercier le personnel soignant qui avait été génial lors de l'accouchement. Voilà, c'est chose faite. Et de mon côté, je me suis planté sur la fraîcheur entre guillemets du plus jeune papa dans l'histoire de Daron, puisque Cédric était papa depuis à peine 6 jours dans l'épisode 7. Si vous voulez l'écouter ou le réécouter, rendez-vous dans les notes du podcast, je vous ai mis un lien. Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets un lien dans les notes de cet épisode, bien sûr. Ensuite, vous pouvez vous abonner à Histoire de Daron ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de Succès, qui est un autre podcast d'interview qui sort tous les jeudis matins. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Je vous mets tous les liens également dans les notes de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cette interview, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux ou plus globalement, d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Merci d'avance à vous. Pour tous vos commentaires, vous pouvez venir commenter sur www.daron.fr. Merci aussi pour vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Je vous laisse en compagnie de Jérémy et je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. On est avec Jérémy. Salut Jérémy.
Salut Fabrice.
Ça va?
Ça va super.
Jérémy, j'ai envie de te dire félicitations parce que si j'ai bien compris, tu es papa depuis environ très peu de temps.
une semaine, ouais, jour pour jour.
Waouh, bravo.
Merci, ouais, merci beaucoup.
Et tu m'as envoyé un mail il y a quelques jours là pour m'expliquer en fait que tu aurais aimé témoigner notamment sur ton expérience d'accouchement en confinement qui doit être un peu particulier, j'imagine, par rapport à un accouchement, on va dire, dans une période plus normale. Mais avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu me disais que tu étais entrepreneur, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc j'ai 32 ans, je suis entrepreneur et donc très récemment papa. Et j'ai monté une boîte qui fait une solution d'enquête logicielle dans le monde des études, en fait, pour faire simple.
Ok, d'accord. Pour nous resituer un petit peu, ton envie de devenir papa, elle remonte à quand?
Elle remonte, il y a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Pour resituer un peu le contexte, ça va faire 16 ans que je suis avec ma femme, qui okay. était à l'époque, quand on s'est connus, forcément, on était assez jeunes, et du coup, on a passé un certain temps sans être mariés, on s'est mariés en 2015. Et suite à ça, moi, assez rapidement, j'ai voulu avoir notre premier enfant. Ma femme était moins pressée que moi, on va dire, mais du coup, on a commencé à mettre les choses en route il y a deux bonnes années, je pense, à peu près.
Mais donc, vous étiez des high school lovers, quoi?
Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors, on n'était pas dans le même high school, mais c'est ça. Différents high school, mais c'est exactement ça.
Et vous aviez jamais parlé de faire des bébés avant ça?
Ah, si, c'est juste que... Si, bien sûr, on en avait parlé plein de fois, comme tu peux l'imaginer. Quand tu te rencontres jeune, forcément, au début, t'as pas d'envie particulière... ou en tout cas t'as pas un timing très précis en tête, en tout cas c'était notre cas, et puis au fur et à mesure que tu vieillis, que tu prends en âge, tu finis par envisager le sujet et tu finis par en avoir envie. Donc ouais, moi je pense que ça arrivait autour de 28 ans, quoi, quelque chose comme ça, et ma femme peut-être un tout petit peu après, quoi, peut-être autour de la trentaine, je pense.
D'accord. Donc, comment ça se passe l'annonce de la grossesse?
Alors en fait, nous on a une grossesse un peu particulière parce que on s'est fait aider médicalement, on a fait un parcours de FIV et du coup il n'y a pas eu d'annonce à proprement parler parce que le sujet était du coup très partagé hein, au sein de la famille et notamment on partageait un peu notre calendrier, on va dire médical, je sais pas si c'est le bon terme, mais et du coup, il n'y a pas eu de surprise, quoi. Il n'y a pas eu la méga surprise aux parents, aux beaux-parents, avec le petit cadeau, etc. Donc en fait, ça a été une annonce, on va dire, somme toute assez sommaire, parce que on a informé nos parents du process en détail, quoi.
D'accord. Est-ce que c'est indiscret de te demander ce qui vous a poussé à faire un parcours de FIV?
Bah non, c'est pas du tout indiscret et j'en parle avec d'autant plus de plaisir qu'en fait, quand on s'est retrouvé là-dedans, moi j'ai trouvé que, en tout cas du point de vue du père ou du futur père, il y avait très peu d'informations. En fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était hyper tabou. Et du coup, pour te donner le contexte, en fait, bah, tu commences à essayer de faire un enfant avec ta femme. Puis au bout de, je sais pas, peut-être un an ou 18 mois, tu te dis, bah, tiens, ça prend pas, quoi. Du coup, on t'a plein de conseils de plein de gens et tu finis par aller consulter. Donc, on est tombé sur une gynéco super bien qui nous a fait passer des tests assez rapidement, qui nous a rassurés, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu commences à rentrer dans ce process, en fait, moi, j'avais jamais entendu parler de gens dans mon entourage qui l'avaient fait. Alors qu'en fait, moi, a posteriori, j'en parlais aux gens. Parce qu'en plus, vu qu'on se connaissait depuis très longtemps, et c'était un peu évident pour les gens qu'on devait, entre guillemets, avoir des enfants. Et si tu veux, du coup, moi, j'en parlais parce que de toute façon, j'étais très à l'aise avec le sujet. Et en fait, quand tu commences à en parler, tu te rends compte que tous les gens dans leur entourage ont des exemples de couples qui sont passés par là, quoi. C'est juste que les gens en parlent pas. Donc voilà, donc moi j'en parle d'autant plus librement et donc du coup donc on a rencontré cette gynéco qui était très bien, qui nous a commencé à nous faire faire des tests, les tests qui étaient pas anormaux, enfin qui étaient même plutôt dans la moyenne, même si là aussi je trouve que c'est un sujet qui est assez mal géré dans le système médical français. Je trouve que dans l'accompagnement, la compréhension des tests, c'est un peu cru, quoi. Tu reçois des batteries de chiffres, on te dit t'inquiète pas, les chiffres sont très faibles par rapport au référentiel, mais le référentiel date des années 60, donc c'est logique, en gros la fertilité baisse, mais bon, toi quand t'essaies d'avoir un gain, tu te dis bah ouais, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Et puis les chiffres fluctuent beaucoup, donc, je trouve que là-dessus l'accompagnement était vraiment merdique.
Ok.
Et du coup, on a fini par faire le parcours en complet. Donc, on a commencé par insémination artificielle, puis FIV. Et la première FIV a fonctionné, et voilà.
Comment s'est passée la grossesse du côté de ta compagne?
Écoute, on a eu une grossesse vraiment idéale. Franchement, on a été hyper chanceux. Ma compagne n'a pas du tout été malade. Tout s'est déroulé vraiment comme sur des roulettes. Elle s'est sentie hyper bien tout au long de la grossesse. Et du coup, non, franchement, là-dessus, on a été vraiment hyper, hyper chanceux, pour le coup.
Ok. Et toi, de ton côté, comment tu vis le fait de devenir papa?
Hyper content, forcément. Hein, c'était quelque chose que j'attendais personnellement depuis plusieurs années, comme je te l'ai dit. Donc forcément, c'est un vrai aboutissement. Et en plus, donc on a la chance d'avoir une fille. Moi, je voulais une fille. Et du coup, je suis vraiment aux anges, quoi. Elle est super mignonne, elle a aucun problème de santé. C'est un peu le truc qui me faisait flipper. Et du coup, non, je suis vraiment hyper heureux, quoi. Et pareil, pendant toute la grossesse, ça a été beaucoup de joie, quoi, au fur et à mesure que tu valides les différentes étapes, parce que t'as forcément les premières étapes à valider qui sont un peu stressantes. Et une fois que t'as passé ce truc-là, t'es un peu libéré d'un poids. Et donc, non, c'était vraiment que du bonheur. Pendant toute la grossesse, quoi. Surtout quand ta femme va bien et que y a plus de risques, tu vois, t'es vraiment tranquille. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment tranquille par rapport à ça. Après, bien sûr, que le contexte du confinement fait que la fin de grossesse a été un tout petit peu chahutée, mais à part ça, tout allait bien.
On va y venir. Qu'est-ce qui fait que tu voulais avoir une fille en particulier?
C'est assez dur à expliquer, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de débats avec mes potes qui très majoritairement veulent des garçons. et je sais pas. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait que des garçons. Donc c'est peut-être ça, je sais pas, je me projetais tout simplement plus dans une relation père-fille que père-fils, j'aurais du mal à t'expliquer plus en détail que ça, mais voilà, et du coup, ouais, enfin, avant même que ma femme tombe enceinte, c'était vraiment ma préférence. Et du coup, ouais, je suis vraiment hyper heureux qu'on ait une fille.
Bon, c'est cool. Bon, alors, parle-nous un petit peu de comment ça se passe dans vos têtes quand vous apprenez donc il y a un mois et quelques qu'on va être confiné. Et donc, j'imagine que vous vous dites « Oh my God, on va devoir accoucher alors qu'on est encore confiné » ou vous avez une forme de... je sais pas, de déni de réalité, de dire « Ok, ça va durer 15 jours et c'est bon, on va pouvoir accoucher dans des conditions à peu près normales. »
Non, en fait, on a été assez lucide sur le fait que l'accouchement allait sans doute se faire en plein confinement. Donc, elle est née le 10 avril. Donc, tu vois, c'est vraiment quelques semaines après le début du confinement. Donc, franchement, depuis le début, on sait que ça allait se faire sous confinement, sauf cas exceptionnel, quoi. Donc là-dessus, on était assez lucide. Là où c'était un peu dur, c'était surtout pour ma femme, en fait, qui, vu que ça allait super bien, elle avait décalé son départ en congé maternité de 2 semaines. Et du coup, ça tombait le vendredi qui précédait l'annonce du confinement. Donc, timing parfait, quoi. Ce qui voulait dire qu'elle allait avoir un début de congé mat complètement confiné. Ce qui est du coup aux antipodes de ce que tu imagines quand... Tu te projettes dans ton congé mat et tu te dis bon c'est cool, je vais pouvoir aller me balader, aller acheter les derniers trucs qui nous manquent pour le bébé. Et donc ça c'était un peu dur au début, forcément. Mais après du coup, en fait c'est marrant parce que passé ce truc là, on n'a pas réalisé tout de suite que ça allait sans doute avoir un impact sur la manière dont on allait être pris en charge par la maternité. Et en fait c'est marrant, c'est une boucle de messages WhatsApp entre copains où des copains demandent des nouvelles et il y en a un qui dit ouais tu vas pouvoir assister à l'accouchement et là ça a été un peu genre un déclic dans ma tête, je me suis dit ouais putain ça se trouve en fait ça va être chaud pour l'accouchement vu que c'était le moment en plus où on était en pleine croissance de l'épidémie et que en fait les mesures changeaient quand même assez souvent, on savait pas trop, il y avait des premières maternités notamment dans les régions dans lesquelles les foyers étaient les plus importants qui commençait justement à interdire l'accès au père pendant tout le process d'accouchement, ce que je trouve personnellement hyper violent. Et du coup, c'est à ce moment-là, on a commencé à avoir le sujet qui a commencé à prendre l'importance dans notre esprit, et on a commencé un peu à regarder ce que faisaient les différentes maternités et les articles de presse qui en parlaient, quoi.
Et tu t'es donc préparé, toi, à éventuellement ne pas assister à l'accouchement, c'est ça? Psychologiquement, en tout cas?
En fait, pas vraiment, parce que assez rapidement, on s'est rendu compte que on va dire la politique la plus commune adoptée par les maternités, c'était une politique dans laquelle le père était là pendant le travail, l'accouchement, et restait ensuite 2-3 heures auprès du bébé et de la maman. Donc en fait, moi, ce schéma-là, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça bouge trop, quelle que soit l'évolution du virus, en fait. Donc je me suis plutôt projeté là-dedans. Alors ce qui veut dire néanmoins de entre guillemets, accepter le fait que je n'aurais pas accès à la... Enfin, je pourrais pas voir ma fille et ma femme les quelques jours qui suivraient l'accouchement. Donc ça ouais, franchement, j'ai plutôt bien accepté, parce que de toute façon, tu vois, c'est un problème tellement grave. Nous, on savait que tous les indicateurs de santé étaient au vert. C'est un bébé qu'on attendait depuis longtemps, donc on était avant tout heureux. Et oui, il y avait ces 2-3 jours où j'allais pas pouvoir être présent auprès de la maman. Mais pour moi, franchement, ça allait. J'étais assez serein par rapport à ça, quoi. Tant que je savais que j'allais pouvoir assister vraiment à l'accouchement à proprement parler, le reste, à la limite, c'était pas très grave.
Ok, oui. Tu t'es pas projeté dans un scénario du pire et de te dire ah bah si ça tombe, je vais pas pouvoir.
Ouais, il y a peut-être eu au tout début quand le sujet a commencé à émerger. J'ai peut-être imaginé rapidement ce scénario-là. Mais honnêtement, assez rapidement, je me suis rassuré en regardant ce qui se passait dans les maternités, et puis je me suis assez peu projeté dans ce scénario. Après, je suis d'un naturel plutôt optimiste, plutôt envie d'envisager le meilleur et de rebondir si ça se passe mal, quoi.
Comment ça se passe le confinement avec ta femme en fin de grossesse aussi?
Alors, le confinement avec ma femme en fin de grossesse, franchement, ça va plutôt pas mal. Parce qu'en fait, du coup, on était, y avait pas le stress de se dire où est-ce que je vais être au moment où ça va se déclencher, je dois rentrer rapidement à l'appart et tout. Donc, tu vois, on était serein, on était dans notre cocon à finaliser les derniers achats, parce que on pouvait quand même commander 2-3 trucs sur internet. Et on était un peu tranquille. Ma femme qui essayait de passer le temps comme elle pouvait, en matant des séries, en matant du contenu sur l'accouchement, sur les bébés, etc. Et moi, je continue à travailler tranquillement de mon côté. Donc en fait, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé.
Ok. Je me rends pas compte en fait de ce que le confinement peut engendrer comme contrainte en fin de grossesse comme ça.
En fait, t'as une contrainte, la contrainte sur le déplacement fait que moi je suis pas allé au tout dernier consulte avec la gynéco et l'équipe médicale à la maternité. Donc ça c'est une première contrainte. Et puis après t'as une contrainte sur moi je trouvais que t'avais une contrainte du coup induite sur le temps que tu avais prévu à passer pour aller finir d'équiper ton appart, d'acheter les derniers trucs. Ça, c'est des trucs que tu as envie de faire à deux, un peu au dernier moment, quand vraiment tu sens que ça arrive et que tu te dis, bon, bah, c'est, il faut que j'achète les deux, trois derniers matos dont j'ai besoin. Et donc, ça, on l'a fait du coup à distance. Et donc, on sortait beaucoup moins, quoi, forcément. Enfin, on sortait juste pour aller faire les courses. Donc, ça aussi, t'as un peu moins de. T'as un peu moins de temps pour t'aérer l'esprit, mais franchement, non, franchement, ça allait. Et puis ouais, non, le vrai impact, c'était que moi, je puisse plus aller au rendez-vous de consulte. Ça, c'était peut-être un tout petit peu pénible, mais encore, ça allait. Vu qu'on habite pas très loin de la mater, ça allait assez vite. Et puis ma femme me tenait au courant.
Ok. Bon alors comment ça se passe le D-Day, le jour de la grossesse, l'accouchement, pardon.
En fait, ça a été un peu particulier parce que. Du coup, ma femme a percé sa poche des os sans la rompre, donc du coup elle s'est fait hospitaliser. Donc elle a passé quelques jours à l'hôpital avant que moi je puisse la rejoindre.
Ok.
Et je l'ai rejoint pour le travail qui a duré assez longtemps puisqu'il a duré 36 heures.
Ah oui.
Donc ça a été une journée et demie assez fatigante parce que ma femme et moi on a quasiment pas dormi, enfin surtout elle en particulier. Donc là, ce qui était sympa, c'est qu'on a pu du coup se retrouver quand même plusieurs heures avant l'accouchement. Donc c'était pas, je suis pas juste arrivé 2 heures avant l'accouchement. Donc on a pu profiter un peu de ces moments entre guillemets tous les deux à la maternité. Donc on a passé quand même des très bons moments. Tu vois, à patienter, à regarder des conneries sur le téléphone, à rigoler, etc. Donc ça, c'était des bons moments, franchement. Et puis après, ouais, donc l'accouchement s'est super bien passé, on a été hyper chanceux. Et ce qui était vraiment bien, c'est que ce jour-là, à la maternité, ils avaient un afflux de demandes assez important, enfin de demandes, un afflux d'accouchement en fait, ce qui fait que toutes les salles d'accouchement et les chambres étaient blindées. Ce qui fait qu'en fait, après l'accouchement, ils n'ont pas pu remonter ma femme dans une chambre tout de suite. Et ça a mis un peu plus de temps. Et du coup, ça nous a donné un peu plus de temps pour profiter de ce moment qui est juste génial. Parce que, en théorie, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, dans les maternités dans lesquelles ils acceptent les papas à l'accouchement, le papa, il reste 2-3 heures après l'accouchement et ensuite il s'en va. Et là, du coup, moi, j'ai pu rester 8 heures. Donc, ce qui était quand même bien parce que, en fait, 2-3 heures, moi, je m'en suis rendu compte. Ça me paraissait beaucoup, en fait, avant de vivre ça. Mais a posteriori, je me dis, mais 2-3 heures, c'est tellement rien, quoi. On s'est rendu compte, en fait, au bout de 2 heures, on était toujours en train de profiter de notre bébé qui était dans nos bras. Et tu vois, on n'avait même pas encore averti. Les amis et la famille, parce que juste on avait envie de profiter du moment, et je me dis, ouais, a posteriori, si vraiment c'est 2-3 heures, c'est quand même un peu dur parce que au bout de 2-3 heures, t'as pas du tout envie de partir de la maternité, quoi.
Comment s'est passée la rencontre avec ta fille alors?
Bah écoute, super bien. Enfin, ma femme a été hyper courageuse, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune complication, enfin, si ce n'est le travail qui a duré longtemps, mais si tu veux, l'accouchement lui-même, il n'y a eu aucune complication, et du coup. Notre fille, elle est sortie, elle était, elle a pleuré un petit peu, puis après, elle est super bien sur le ventre de sa maman, donc on en a vraiment hyper profité. Et la rencontre en elle-même, c'est assez marrant. Moi, je pensais que je serais beaucoup plus ému en fait le moment où ça s'est passé. Et en fait, non, j'étais assez lucide, assez serein et beaucoup moins dans l'émotion que je l'imaginais. Mais du coup, ça on a quand même fait un super moment parce que du coup, on en a vraiment bien profité quoi. D'autant plus, je trouve, quand t'as aucun souci, on va dire, dans le médical, bah tu vois, t'as juste qu'à kiffer le moment et en profiter. Moi, c'était un peu un truc qui me stressait. Je m'en suis rendu compte un peu posteriori, mais t'as toujours peur, tu vois, qu'il y ait la césarienne en urgence, ou le rythme cardiaque du bébé qui commence à descendre. Et ces trucs-là, je les gardais un peu en arrière-plan, donc t'as un peu du soulagement aussi quand le truc est fait, quand ta fille va bien et qu'elle est sortie du ventre de la maman.
Qu'est-ce qui faisait selon toi que tu te projetais plus ému et qu'au final tu as la sensation que tu n'as pas été autant?
Bah, tu vois, c'est assez dur à expliquer, mais le truc que j'ai remarqué, c'est que quand je voyais des vidéos d'accouchement ou téléprogrammes télé un peu gnangnan, où tu vois les gens qui se font filmer pendant l'accouchement, ce que je comprends pas d'ailleurs d'un point de vue personnel, mais bon, après c'est un autre débat. En tout cas, c'est tous ces trucs-là, à chaque fois, ça, j'avais une des grosses bouffées d'émotion quand je voyais les gens accueillir leurs enfants. Et je sais pas si c'est le fait de l'avoir attendu ou d'avoir beaucoup réfléchi au sujet, à la paternité, etc. Mais j'ai été moins pris par l'émotion, tout simplement parce que c'était ma fille et que voilà, elle était là, et je profitais de l'instant plus que d'être spectateur dans les autres situations dans lesquelles j'avais cette émotion assez particulière. Et du coup, ouais, c'est peut-être je pense que c'est le fait d'être acteur en fait. Quand tu es acteur, tu es vraiment dans l'action et tu vis le truc à 100%, et enfin, du coup, t'es moins surchargé, quoi. C'est comme au ciné, quoi. En gros, quand tu vois, il y a certaines scènes que tu vois au ciné qui te font pleurer et qui te feraient peut-être pas pleurer dans la vraie vie. Je pense que ça, c'est à peu près la même chose.
Ouais, au ciné, ils mettent du violon aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est peut-être ça. Mais cela dit, dans les émissions, ils doivent mettre du violon, je pense
C'est pas
aussi.
faux.
Il faudrait le revérifier maintenant.
Sans doute. Très bien. Donc tu disais que donc vous êtes restés 8 heures ensemble, c'est ça?
Après, ouais, on est resté 8 heures ensemble. Donc, il y a eu les premières heures pendant lesquelles on en a quand même bien profité tous les trois. Après, on a commencé à prévenir la famille. Qui était à distance forcément, donc ça c'est une des autres conséquences du confinement, c'est que du coup t'as aucune visite, quoi. En tout cas nous on prend pas ce risque-là, d'un point de vue ne serait-ce que de santé, quoi, hein, pour nos proches. Et donc on a prévenu nos proches, donc ça tu le fais à distance, que tu enfin on l'a fait, disons, à distance, avec des photos, des vidéos, ce qu'on n'aurait pas forcément fait, je pense, en temps normal. On aurait peut-être été dans un niveau d'information un peu moins, on va dire, dense, parce qu'on savait que les parents seraient venus sans doute dans la journée, tu vois. Donc là, on savait qu'en plus on avait quelques heures devant nous pour partager ça, donc voilà, on a fait des petites visios avec les parents. Et ensuite, on a fini par se reposer une fois que notre petite fille avait fait son premier examen, était habillée, etc. Parce qu'en fait, on a très peu, comme je te disais, on a très peu dormi pendant le travail, donc on était franchement assez épuisés, surtout la maman qui, en plus, elle avait eu un vrai effort à faire. Et du coup, ouais, on a un peu relâché la pression et on s'est endormis tous les trois dans la chambre. Et c'est la médecin-chef qui est venue nous réveiller en disant: bon, j'ai trouvé une solution pour les chambres, donc monsieur, je suis désolé, mais il
Il
va
va
falloir
falloir
y aller.
partir
Voilà. Mais
maintenant.
c'était sympa parce qu'on avait quand même passé un peu de temps.
Ouais.
Et de manière assez égoïste à ce moment-là, vu que j'étais quand même bien explosé, il y avait au fond de moi un côté qui me disait, il y a quand même un truc positif, c'est que je vais pouvoir me reposer et dormir là pendant 3 jours. Et vraiment être d'attaque quand la petite reviendra à la maison, quoi, ce qui était le cas pour le coup.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okay. Pour revenir à la famille qui vient pas, c'est à la fois un truc peut-être un peu déchirant, mais aussi un truc cool aussi parce que j'ai eu quelques père qui me racontait aussi que parfois c'était un peu envahissant les familles qui pouvaient débarquer à un moment donné et que ça pouvait, alors du côté de la belle famille comme du côté de la famille du daron d'ailleurs, et que ça pouvait aussi engendrer des frictions, quoi, tu vois. Donc il y a aussi un aspect positif à ça, peut-être.
Ouais, peut-être. Ce qui est sûr, on a eu, hein, je partage ce retour que tu fais. Nous, on a eu des copains, hein, qui nous ont dit que fallait vraiment bien gérer, fallait poser un peu un cadre sur les visites que tu acceptais de recevoir à la maternité. Vraiment, il y a des gens qui nous ont dit, non, mais vous limitez aux parents et aux grands-parents, et c'est tout, et frères et sœurs, quoi. Et les oncles et tantes, vous faites pas et tout. Et moi, en fait, a priori, je trouvais ça un peu dur. Parce que, tu vois, il y a quand même plein de gens proches, au-delà de ce cercle restreint, que j'aurais aimé avoir à la maternité. Et je me disais, ouais, c'est quand même un peu dur et tout. Mais en fait, si je revis le truc a posteriori, je me dis, bah ouais, en fait, quand tu sors d'un travail qui est assez dur, que t'as très peu dormi, et que, en plus, tu découvres ce que c'est que la parentalité, donc tu dors pas beaucoup, en plus la première nuit où t'as ton bébé, parce que bah il pleure et que tu sais pas faire, donc t'apprends, quoi, et t'es encore un peu dans l'adrénaline du moment, en fait je me dis, ouais, que les journées à la mater où tu reçois visite sur visite, ça doit être assez long, et du coup j'ai un peu revisité des visites que j'avais fait à la mater pour des copains où tu te retrouves à 5 ou 6 dans la chambre, tu sais, en plus des chambres qui sont surchauffées parce qu'elles sont faites pour que les bébés se sentent bien, où tu sais pas trop où te foutre, où les gens se connaissent pas, donc ils osent pas trop parler ensemble. Et je me dis, c'est vrai que ces moments-là, est-ce que c'est vraiment plus sympa que d'attendre 2 semaines et d'inviter chaque couple de copains à la maison tranquillement? En fait, j'en suis pas si sûr. Donc le conseil de poser un cadre sur qui vient, qui a le droit de faire la visite et qui n'a pas le droit à la mater, je trouve que c'est un bon outil, quoi. C'est un bon truc pour essayer de réguler un peu le flux en amont.
Merci pour le conseil.
J'ai même pas eu à l'appliquer, donc c'est facile, tu vois. C'est facile de donner ce conseil-là.
Mais donc, si je me trompe pas, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que donc t'es parti après ces fameuses 8 heures et t'as plus vu ton bébé pendant 3 jours, c'est ça? Ni ta femme?
Ouais, c'est exactement ça.
Okay.
Ouais, c'est exactement ça. Après, heureusement, tu vois, on est quand même dans un monde où c'est très facile d'avoir une vidéo, une photo. Donc, ma femme a été top. Elle m'a envoyé plein de photos, plein de vidéos de ma fille, quoi. Et du coup, en fait, ces 3 jours-là, honnêtement, ils sont passés assez vite. Mais aussi parce que, comme je te le disais, j'étais assez épuisé. Donc, en fait, j'ai passé pas mal de temps à récupérer, à dormir. Et surtout à préparer l'arrivée, en fait. L'avantage que ça a eu, c'est que du coup j'avais du temps à la maison tout seul pour tu vois, finir de tout nettoyer, faire un énorme plein de courses, commencer à préparer des plats pour les premières journées où t'as aucune envie, enfin t'as pas du tout envie de cuisiner, donc vraiment faire en sorte que quand ma femme et ma fille rentrent à la maison, le contexte soit nickel, que tout soit bien organisé pour que du coup on puisse l'accueillir dans la maison de la manière la plus sereine possible. Donc en fait, ça c'était un moment entre guillemets que j'ai réussi à rendre positif parce que je me suis reposé et parce que j'ai vraiment bien préparé à la suite, quoi. Ce qui fait, quand ma femme est rentrée du coup le lundi matin, c'était cool, quoi. Il y avait plus rien à faire, tout était en ordre et on a pu juste profiter du moment de se retrouver une nouvelle fois tous les trois.
Ok, donc là ça fait une semaine, c'est ça, maintenant que vous êtes
ça fait 5 jours qu'on est même pas ensemble, ouais. Ouais, c'est ça.
Enfin, ça fera une semaine quand ce podcast sera sorti.
En fait, elle est née, donc là on est le 17, elle est née le 10 et ils sont rentrés à la maison le 13.
Comment ça se passe les premiers jours confinés? Parce que ouais, vous pouvez pas sortir, c'est ça qui est, c'est compliqué, ça.
On peut pas sortir, ouais, et on peut pas du coup non plus, parce que sur le sujet des visites, comme je disais, à la maternité, c'est bien d'avoir un peu une régulation du flux de visite. Autant a posteriori, t'as quand même vachement envie de présenter ton bébé aux gens, donc ça c'est un peu plus dur pour le coup.
Ouais, c'est sûr.
Notamment pour les parents, quoi, hein, qui en plus sont souvent dans l'attente. Enfin, moi en l'occurrence, mes parents, ils deviennent grands-parents avec notre bébé.
Ah.
Mes beaux-parents, c'est la deuxième petite fille, mais la première c'était il y a 9 mois, donc ça reste un sujet qui est très chaud. Donc tu vois, c'est un peu une frustration pour eux, forcément, de pas pouvoir l'avoir, quoi. Donc pareil, hein, on s'organise de la même manière qu'on se met à faire des apéros via visio, quoi. En gros, là, on fait des petites sessions grands-parents, petites filles par visio, quoi. On s'appelle et puis on la filme en permanence, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est assez frustrant, quoi, parce que forcément, t'as envie de présenter ton bébé à tes parents, à tes frères et sœurs et à toute la famille, quoi. Il faut juste patienter. Du coup, la date du 11 mai, là, elle a été cochée dans tous les calendriers. Va falloir qu'on s'organise bien pour la présenter à tout le monde à partir de ce moment-là.
Oui, puis un truc qui manque dans les visios, c'est l'odorama, hein, parce que l'air de rien, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans les bébés, c'est leur odeur.
Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais franchement, ouais, ça manque. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas encore la solution,
Non.
ouais, clairement. Mais bon, déjà, franchement, le son là, et la vidéo, c'est quand même génial. Enfin, tu arrives à transmettre quand même pas mal d'émotions. Mais ouais, je suis d'accord avec toi.
Je pense que t'es pas loin d'être le plus jeune papa qui est passé dans mon podcast. Je pense que
Ah oui?
j'avais eu Cédric, mais je pense que lui, il était papa depuis 10 jours, si je me trompe pas. Donc, bah,
Ah
félicitations,
d'accord, en termes de
tu
en
gagnes
termes de d'accord.
de jeune
D'accord, bah
papa.
merci, ouais.
Comment
Enfin,
est-ce
du
que
coup, j'ai assez peu d'expérience à partager sur la paternité. Enfin, j'ai quelques jours, quoi, une semaine, on va
Ouais,
dire.
mais au contraire, ce qui est cool, c'est que c'est tout frais pour toi et que typiquement, tu dois être en train de vivre des trucs que moi, j'ai complètement oublié parce que mes filles sont devenues grandes maintenant. Comment ça se passe les premiers jours?
Écoute, ça se passe super bien. Franchement, moi, je suis surpris. Je pensais qu'on ce serait beaucoup plus compliqué à gérer. Ça se passe super bien déjà parce que bon, moi, je suis en. Alors, je suis à la maison du coup en permanence. Hein. Il y a pas de sujet par rapport à ça. Ce qui fait que on se relaie en permanence avec ma femme. Alors, ça peut être le cas hein, quand les pères prennent leur congé à paternité. Dans la foulée des 3 jours, c'est à peu près ce qu'ils vivent. Mais nous, là, du coup, on sait qu'on a un mois devant nous, pendant lequel on sera tous les deux là, donc, et tout le temps à pouvoir se relayer auprès de notre petite fille. Donc ça, c'est franchement, pour le coup, c'est un point positif, je trouve, qui fait que pour les premières semaines, on vit vraiment le truc tous les trois. Et du coup, je pense que je vais plus pouvoir, enfin, je le suis déjà, et je vais plus pouvoir être en soutien de ma femme quand elle a besoin d'aide. Donc ça, c'est le point positif. Et après, les premiers jours se sont super bien passés parce que en fait, elle est cool, quoi. Elle est super cool. Elle nous fait déjà des très grosses, enfin, ce que je considère être des grosses sessions de sommeil de 3h30, 4h, y compris la nuit. Du coup, on se réveille que 2 fois la nuit
Ah, c'est cool.
et on la change et on la nourrit. Et puis après, on la remet dans son lit et puis elle redort, hein, quasiment instantanément. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle, parce qu'en plus, nous, on est des gros dormeurs avec ma femme. Donc moi, j'appréhendais un peu, je me disais, ouais, ça va être quand même un peu difficile là, de passer de nuit où on fait des grasses mat jusqu'à 11h30 midi, ce qui, du point de vue de nos potes parents, enfin, ressemblait à une anomalie, quoi, en gros, et passer de ça à des nuits complètement hachées, on se disait. Enfin, moi, j'avais peur que ça nous tape trop sur le système, mais vu que la petite est plutôt cool en termes de sommeil, ça, je pense que ça nous enlève un gros poids sur
Ah,
les
c'est
épaules,
sûr
quoi.
que, ouais.
Et après, l'autre truc, c'est que d'un point de vue santé, tout est au vert, donc ça, pareil, je trouve que c'est quand même un gros soulagement. Parce qu'en fait, le truc que j'ai réalisé, c'est un pote qui m'avait fait cette réflexion-là, j'avais trouvé ça très juste. Quand tu commences les grossesses, enfin, quand tu commences à vouloir avoir des enfants, tu passes dans un process où tu as des étapes à passer, et à chaque étape, tu as des scénarios dans lesquels ça se passe mal, quoi, en gros. Et du coup, enfin, tu as toujours des stress, quoi, en disant est-ce qu'elle va tomber enceinte? Est-ce que la grossesse va tenir? On a passé les premières semaines, mais est-ce qu'elle va continuer à tenir? Est-ce que mon bébé a tout qui va bien? Est-ce que l'accouchement va bien se passer? Et un jour, je parlais avec un pote, il me dit non, mais t'inquiète, hein, de toute façon, à partir du moment où t'as des enfants, t'es inquiet tout le temps, c'est terminé, quoi. Enfin, tu vois, ils ont beau avoir un jour, un an ou 18 ans, tu seras toujours inquiet, quoi. Ce sera des inquiétudes différentes, mais tu seras toujours inquiet. Et du coup, j'ai réalisé ça en fait quand elle est arrivée, en me disant bah ouais, là maintenant, je suis inquiet que que ça n'est pas, qu'elle mange pas bien, qu'elle a des problèmes, qu'elle, enfin voilà, tu vois. Mais du coup, faut juste accepter le fait que, voilà, ça y est, maintenant t'as des enfants, t'es responsable, et du coup, faut juste relativiser et se dire, il y aura toujours des risques, mais voilà, c'est pas grave. Et en fait, il y a quand même de grandes chances qu'ils s'en sortent très bien. En tout cas, j'espère.
Oui. Clairement. Et ça va, est-ce que tu arrives à conjuguer le travail avec cette nouvelle paternité?
Ouais, pour l'instant ça va. Donc comme je disais, moi je suis entrepreneur, donc j'ai de la flexibilité sur mon emploi du temps qui est assez importante. Ce qui fait que je peux être présent auprès de ma fille et quand elle dort, me remettre à travailler, tu vois. Au moment où il y a des temps un peu morts, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est un très gros avantage lié du coup à la fois à mon métier, mais aussi au fait qu'on est confiné et que du coup j'ai pas de déplacement, donc je suis chez moi et du coup ça rajoute de la flexibilité dans mon emploi du temps, quoi. Les seules contraintes que j'ai, c'est des calls qui parfois, ouais, sont pas très bien placés. Donc ça, je suis encore en train de trouver la bonne solution pour éviter que ce soit trop en conflit avec les moments que j'ai envie de passer avec ma fille. Mais du coup, à part ça, tu vois, ça reste hyper flexible, quoi. Le matin, notamment le matin, elle dort beaucoup, donc le matin, j'ai du temps pour bien avancer. Donc ça, c'est plutôt un aspect positif du confinement et de mon métier, qui font que c'est facile d'avancer des points du boulot. Versus un cas dans lequel je serais employé et j'aurais allé au bureau tous les jours, ouais. Ça ce serait assez compliqué. Je pense d'ailleurs le premier jour, enfin j'entendais dans un de tes podcasts précédents, le premier jour où tu retournes au bureau, ça doit être assez compliqué, quoi. C'est pour le coup, c'est un truc que je vais vivre de manière un peu moins forte vu que ce sera dans un mois, tu vois, elle aura déjà bien grandi. Et puis on sera tellement content de ressortir que ça compensera un peu la tristesse de la laisser à la maison toute seule avec sa maman. Quand.
Ouais, je comprends. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'est-ce que ça fait de donner la vie à un être humain comme ça dans un contexte de pandémie mondiale, de mort, de maladie, etc. etc. C'est un truc, ça doit être un truc un peu particulier, non? Ou tu ne l'as pas vécu?
Alors,
comme
ouais,
ça
en fait, si, c'est un gros sujet de réflexion chez moi en tout cas. En fait, j'avais déjà cette réflexion-là avant cette épidémie, dans le sens où, tu vois, hyper fréquemment, je pense au réchauffement climatique, je me dis, mais, enfin, tu vois, c'est un sujet qui me pèse quand même pas mal, même si paradoxalement, je travaille pas du tout sur ce domaine-là et je fais sans doute pas partie des personnes les plus exemplaires dans ce bas monde pour faire en sorte que le réchauffement climatique ralentisse et s'arrête.
Personne n'est exemplaire, tu vois, tu sais.
Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet, tu vois, je me faisais la réflexion l'autre jour, c'est un sujet auquel je pensais au moins une fois par jour en me disant, mais comment on va arriver à sortir de ce truc-là, quoi. Et du coup, en fait, cette épidémie-là, alors c'est un point de vue qui est très personnel, mais alors je trouve ça très grave, hein, et je suis tout à fait d'accord avec les mesures qui ont été mises en place. Néanmoins, ça m'inquiète moins que le sujet du réchauffement climatique. Et du coup, c'est plus, je me suis pas dit ah tiens, elle arrive dans un contexte Covid-19. Ouais, Covid-19, c'est quand même révélateur de ce qui est en train de se passer sur la Terre. C'est plutôt une réflexion un peu plus long terme où je me dis, ouais, on l'a fait quand même naître dans un monde où en gros la planète va quand même pas très bien et on est loin d'avoir identifié la solution. Et ça, honnêtement, c'est un peu source d'anxiété pour moi, quoi. Parce que ouais, je trouve que c'est pas forcément un très gros cadeau que de faire ça à une génération, enfin de les faire arriver dans ce contexte-là. Après, comme je disais, je suis assez optimiste, donc je pense qu'on va finir par trouver une solution. Un moment et du coup
et puis peut-être eux ils vont trouver une solution, tu vois, leur génération,
voilà,
à eux.
C'est ce que j'allais dire, c'est que peut-être que ce sera leur génération qui sera capable de trouver cette fameuse solution qui permettra de changer cette dynamique assez dure, quoi. Mais ouais, c'est un gros sujet de réflexion. En effet, je trouve que c'est pas forcément trop un cadeau, quoi.
Bon, t'es pas, si ça peut te rassurer, t'es pas seul parmi mes invités,
ouais.
À vivre ce genre de prise de tête au 21e siècle, quoi.
J'imagine. J'imagine, bah, c'est vrai que moi je trouve que c'est assez rigolo, mais je trouve qu'il y a quand même un énorme gap en termes de prise de conscience entre la génération de nos parents et nous. Quand bien même on vit dans le même monde aujourd'hui et qu'on a les mêmes indicateurs, je trouve que c'est mon analyse très personnelle, mais j'ai l'impression que ça s'est intégré à une vitesse beaucoup moins importante chez nos aînés. Alors peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais et du coup je trouve qu'on J'ai l'impression qu'on est un peu la première génération à vraiment être hyper conscient du truc. Et comme je disais, à pas avoir encore trouvé la solution, et vu qu'on est la génération qui est en train d'avoir des enfants, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. J'aimerais bien avoir d'autres échos, tu vois, sur le sujet, parce qu'en fait, je peux pas croire que quand t'es père aujourd'hui, tu te poses jamais la question, tu vois. Je pense que systématiquement, t'es obligé de te poser cette question-là, quoi. Quel monde je suis en train de laisser à mes enfants? Et pour autant, paradoxalement, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas le premier pour trouver des solutions sur le sujet. Donc voilà, il y a encore ce petit truc-là à régler de mon côté, quoi.
Ça prend du temps, c'est un chemin.
Ouais, c'est ça,
Et sans
exactement.
doute le fait de devenir père aussi fait en sorte que peut-être tu accélères un peu ça parce que tu te dis, ah bah c'est plus juste ma pomme qui est sur cette planète, je vais amener maintenant une descendance qui est amenée à vivre d'autant plus d'années, quoi, tu vois.
Ouais, peut-être. Alors, j'ai pas assez de recul pour te dire oui
Comment
avec
ça?
certitude. Non, ce que je note, cela dit, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que j'ai un niveau d'exigence pour ma fille qui est bien au-delà du niveau d'exigence que j'ai pour moi. Alors, je parle niveau d'exigence sur le contexte dans lequel elle vit, donc à l'échelle de l'appartement, hein. Mais c'est des trucs très bêtes, tu vois, de propreté. Où moi, parfois, sur certains trucs, je me serais dit bon bah c'est ok pour moi, tu vois. De laisser traîner un truc. Et là, non, pour elle, je me rends compte que je nettoie beaucoup plus souvent les trucs. Il n'y a aucune place au moindre relâchement, quoi. Et je me dis, c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, je devrais prendre autant soin de moi que je ne prends soin de ma fille. Et en fait, c'est pas le cas, quoi. J'ai accepté que, de manière complètement inconsciente, que elle est plus importante que moi, entre guillemets, et du coup je dois faire beaucoup plus attention à son contexte, à l'environnement dans lequel elle vit.
Ok. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, tu as découvert Histoire de Daron par un jeu de piste que ta femme t'a laissé dans votre appartement, c'est ça?
Ouais, c'est vrai. Alors, elle va me tuer, j'en ai pas encore parlé, alors que c'était quand même un des trucs assez marquants de mes 3 jours de retour de maternité. En fait, ce qui s'est passé, donc avec ma femme, donc on se connaît depuis très longtemps, donc on se connaît très bien, et on adore jouer à des jeux. C'est un des trucs qui nous réunit beaucoup. Et c'était le jeu de piste dans l'appartement, c'était des trucs qu'on avait déjà fait quand il y en a un qui est tout seul. C'est la petite surprise sympa. Et donc là, au moment où je suis parti de la maternité, elle me dit, ouais, quand tu rentres, tu vas chercher dans le fond de mon sac à dos, tu vas trouver un papier et tu comprendras. Et donc je rentre, enfin, j'imaginais ce que ça allait être. Je rentre, donc forcément tu rentres tout seul après avoir laissé ta femme et ta fille, donc t'es un peu triste, quoi. Mais en même temps, il y a ce truc-là qui m'attendait, donc je savais que j'allais bien me marrer. Et donc je vais chercher ce fameux papier et je commence à lire. Et en fait, elle a fait un truc qui était génial, c'est qu'elle a donc elle avait créé ce petit jeu de piste où j'allais d'indice en indice dans l'appartement. Donc elle me disait prochain indice, il est caché dans tel type de livre, en étant un peu suffisamment confus pour que ce soit rigolo, qu'il y ait un peu de recherche. Et ce qui était hyper hyper sympa, c'est que à chaque indice, il y avait un conseil sur la paternité qui m'avait été laissé soit par ma famille, donc mes parents, mes frères, soit par des copains en fait. Donc tous mes copains, notamment j'ai une grosse bande de copains d'école qui sont pour la plupart déjà papa. Et donc elle leur avait demandé de rédiger les quelques conseils un peu indispensables pour être pour bien vivre sa paternité. Et du coup, franchement, ça a fait hyper chaud au cœur parce que quand tu rentres, t'es un peu déprimé. Et là, tu as tous les messages de ta famille, de tes potes qui t'expliquent. Alors, dans leur style, en plus, tu reconnais la patte de tous tes potes. J'ai un pote qui m'a conseillé, tu vois, de refaire complètement ma cave de whisky et surtout de bien boire ce whisky, quoi. En gros, j'ai un autre pote qui m'a dit. Contredis jamais ta femme, surtout. C'est juste le seul conseil que j'ai envie de te donner. Tu as des potes qui donnent des conseils beaucoup, beaucoup plus pratico-pratiques sur l'ordre dans lequel on devait changer, puis mettre au sein la petite. Et du coup, c'est hyper rigolo parce que c'est une manière de, tu vois, de vivre le truc un peu avec tes potes et ta famille alors qu'ils sont à distance et que tu peux pas les voir. Et donc, ça, c'était génial, franchement. Et donc, dans ce parcours, il y avait ces conseils et il y avait aussi des challenges. Hein. Et parmi les challenges, il y avait. Bon, ma femme, elle m'avait mis des challenges de type pratique, du type nettoyer tout l'appart, passer l'aspirateur, ce que j'aurais de toute façon fait, mais bon, c'était rigolo qu'elle le reprécise. Et il y avait un des challenges parce qu'elle me reprochait de pas assez sortir pendant le confinement parce que je suis un peu sur mon PC à bosser, enfin j'étais un peu sur mon PC à bosser et juste sortir pour faire les courses, mais aussi parce que je trouve ça bien de respecter à la lettre les consignes. Et du coup elle m'a dit bah parmi le challenge, un des challenges c'est tu sors, tu télécharges Histoire de Daron sur ton lecteur de podcast, que je suis un énorme fan de podcast en fait. Et donc je connaissais pas ton podcast et donc j'ai fait ça et j'ai commencé à écouter et du coup j'ai trouvé ça vraiment cool et donc j'ai écouté les 3-4 derniers épisodes et du coup c'était génial parce que bah pareil en fait c'est toujours dans la même logique d'avoir des conseils du coup tu te mets à écouter d'autres personnes qui ont déjà des expériences de paternité et qui arrivent avec des conseils, des histoires de vie, et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa, et ça me faisait un peu sortir de ma caverne où je bossais du coup quand même un peu pendant ces quelques jours de solitude. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert le podcast, et c'est suite à ça que je t'ai contacté en disant bah merci, c'est cool, et au passage, moi je viens d'avoir ma fille en confinement, donc on peut en discuter si ça t'intéresse.
Et puis tu viens de donner ta dose de conseils à d'autres pères, tu vois, en passant. Donc
Ouais, je sais, je c'est pas l'impression que j'ai en tout cas, mais ouais, peut-être
ah
d'une
si
certaine
si,
manière. Ouais.
ouais je pense aussi. Tu sais qu'il y a donc t'imagines bien qu'il y a une dernière question que je pose à tous les darons. Tu l'as
Ouais.
entendu ou pas?
Ouais, je l'ai déjà entendu, ouais.
Qu'est-ce que tu
J'ai déjà
dirais?
entendu, je me suis déjà fait la réflexion, je me suis dit, putain, ça c'est vraiment chaud comme question. Mais vas-y, je te laisse me la poser, ça me laisse 5 secondes de plus pour y réfléchir.
Qu'est-ce que tu dirais à ta fille si elle entend ce podcast dans 10 ans, qu'elle tombe dessus, par exemple, qui serait perdue sur Internet quelque part?
Déjà, moi je crois assez peu au fait qu'il sera perdu, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire, ça va rester, je pense. Et c'est une grosse différence entre cette génération et la nôtre, c'est que. Eux, ils ont leur vie qui est complètement documentée du jour zéro jusqu'au moment où ils deviennent adultes, quoi. Ça, je pense que ça a beaucoup changé la manière dont on garde les souvenirs, etc. Enfin bref, petit aparté. Et du coup, ça m'étonnerait que ça se perde sur Internet. Je pense qu'au contraire, ce sera assez bien archivé. Non, qu'est-ce que je veux dire? Rien, que c'était un énorme moment de bonheur que de l'avoir au moment de sa naissance. Qu'on l'attendait depuis assez longtemps et que du coup on a super bien vécu le truc et qu'on est hyper heureux de l'avoir quoi et que si elle l'écoute elle aura du coup 10 ans, je sais pas, qu'elle vienne me faire un bisou et un câlin quoi, je serais content, c'est tout.
Bon, merci beaucoup Jérémy pour ce moment passé en ta compagnie, c'était cool.
Et bah écoute, je t'en prie, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience. J'espère que ça servira au futur papa dont l'accouchement aura lieu également en période
Ouais.
de confinement.
Je vous souhaite le meilleur, plein de bonheur à vous.
Et bah merci beaucoup.
À bientôt,
Toi
salut.
aussi.
Ciao.
À bientôt, salut.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.